L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Ce soir, on va parler du caractère. C'est un sujet très important. C'est un sujet délicat aussi. Je suis jeune, j'ai 31 ans, et pour moi c'est délicat de parler de ce sujet, parce qu'on est censé, plus on vieillit, plus on est censé devenir meilleur dans son caractère, et comme je suis encore jeune, vous tous vous êtes déjà en train de penser « Aïe aïe aïe, il a 31 ans, il va nous dire comment être comme Jésus. » C'est sûr que je suis loin d'être comme Jésus, ça c'est évident. Mais si vous m'aviez rencontré il y a 10 ans, Annabelle pourrait vous dire, c'est la seule personne ici qui pourrait le dire, mais elle peut vous dire qu'il y a eu un changement. Oui, elle confirme, c'est bon, un changement positif. Et ce changement, je peux en parler, et j'ai eu quelques révélations personnelles dans la parole de Dieu au sujet du caractère, et j'aimerais vous en parler ce soir, humblement. Parce que comme je le dis et je le répète, je suis loin d'être comme Christ est. Mais les révélations que j'ai sont des révélations que Dieu m'a données et c'est le chemin qu'il m'a montré pour devenir comme Christ. Donc c'est en cela que je vous le partage ce soir. À l'âge de 13 ans, 13-14 ans, j'ai été forcé et contraint, je n'étais pas sauvé, mais... Ma grand-mère voulait que j'aille à l'église, donc je fréquentais une église des Assemblées de Dieu à l'île de la Réunion, et ils organisaient chaque année un camp de jeunes. Et je suis allé à ce camp de jeunes, et lorsque j'étais au camp de jeunes, là-bas, ils prêchaient, ils enseignaient. Bon, je ne comprenais pas grand-chose, mais lorsque je suis sorti de ce camp de jeunes, j'avais un désir profond en moi de changement. Et je voulais devenir un bon garçon. Merci. Je voulais devenir vraiment un bon garçon, je voulais devenir meilleur parce que j'avais conscience de mes défauts, j'avais conscience de mes faiblesses, j'avais conscience que j'étais un jeune garçon qui désobéissait à ses parents, qui avait de mauvais traits de caractère et je voulais changer. Et lorsque je suis rentré de ce camp de jeunes, j'ai fait énormément d'efforts pour changer. Chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je mettais un frein à ma bouche, j'essayais de ne plus parler. Pour ne pas sortir des bêtises de ma bouche, j'essayais d'aller à l'église le plus possible. J'allais les jeudis soirs après l'école à l'église et je faisais énormément d'efforts. Et je réalisais qu'en fait, je ne changeais pas. C'était juste à la surface. Mais une semaine après, deux semaines après, les vieilles choses qui étaient là enfouies en moi revenaient à la surface. Et je réalisais que ce n'était pas simple de changer son caractère. On peut essayer de changer à la surface, c'est superficiel, mais c'est simplement réagir d'une certaine façon à l'extérieur, mais à l'intérieur être totalement mal et être contraire à l'acte qu'on a posé, à l'action qu'on a posée. Et je réalisais que changer son caractère, c'est un processus qui prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai réalisé que malgré mes efforts et les efforts que j'essayais de faire, mon caractère ne changeait pas. À l'intérieur de moi-même, je ne changeais pas. Et... plus tard, j'ai appris ce qu'est le caractère et j'ai appris à changer mon caractère. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous décrire ce qu'est le caractère. Le caractère, c'est ces choses qui, en vous, ces dispositions intérieures, en vous, qui vous poussent à réagir toujours de la même façon face à une situation. C'est ça, le caractère. C'est-à-dire, c'est cette chose qui est constante chez vous, ça peut être un bon trait de caractère ou un mauvais trait de caractère, mais c'est ces dispositions que vous avez enfouies à l'intérieur de vous qui font que vous allez à chaque fois, confronté à la même situation, réagir de la même façon. Parce qu'au fond de vous, c'est comme dans vos gènes, vous savez, il y a ces choses-là qui vous empêchent de réagir autrement. C'est ça le caractère. Le caractère, c'est ces choses en vous qui vous font réagir toujours de la même façon face à certaines situations. Il y avait un homme de Dieu qui disait, Une bonne définition du caractère, c'est une statue. Il y avait dans son pays, dans sa ville, une statue au milieu de la ville. Et c'était une statue de la reine d'Angleterre. Et elle souriait. Et il disait qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps qu'il y avait à l'extérieur, la statue souriait tout le temps. C'est ça le caractère. C'est toujours la même chose, peu importe ce qui se passe. Donc, vous vous connaissez peut-être, et vous savez peut-être vos bons traits de caractère et vos mauvais traits de caractère. Mais on peut voir, par exemple, face au succès, certaines personnes vont avoir un caractère orgueilleux. Et ces personnes, par exemple, vont se vanter. Elles vont dire, quand elles vont réussir, elles vont se vanter. Mais une autre personne, elle peut avoir un caractère humble. Et face au succès, au lieu de se vanter, la personne, elle va rester humble, elle va fermer sa bouche, elle va ne rien dire. Vous voyez, il y a ces deux opposés dans le caractère. Donc, face à l'échec et à l'adversité, certaines personnes ont un caractère défaitiste. Donc, elles vont rencontrer des obstacles dans leur vie, elles vont rencontrer des difficultés, mais ceux qui ont un caractère défaitiste, elles vont toujours abandonner. Elles ne vont pas persévérer. Mais il y a ceux qui ont un caractère persévérant. Eux, vous pouvez les claquer, vous pouvez leur mettre les bâtons dans les roues, vous pouvez les empêcher d'avancer. Il peut y avoir des obstacles, toutes sortes d'adversités face à eux. Ils vont toujours persévérer et ne jamais abandonner parce qu'ils ont en eux ce trait de caractère de la persévérance. Contrairement à d'autres qui ont un trait de caractère défaitiste. Face à la critique, par exemple, il y en a qui ont un caractère susceptible. Vous comprenez que ce que j'entends par caractère, c'est cette chose qui demeure en vous et qui fait que face à la situation, votre caractère fait que vous allez réagir comme ça. Quand vous pensez à vous et que vous voyez une certaine situation, vous allez réagir d'une certaine façon. Et si vous réagissez de cette façon toujours face aux mêmes situations, c'est parce que vous avez un certain type de caractère. Mais pensez à une autre personne qui n'est pas comme vous et qui a peut-être un meilleur caractère que vous sur ce point-là. Vous mettez la personne face à la même situation que vous traversez, cette personne, elle va réagir différemment parce qu'elle a un meilleur caractère, un meilleur trait de caractère que vous face à cette situation. Alors, face à la critique, par exemple, excusez-moi, face à la critique, certains ont un caractère susceptible. Et j'étais comme ça. Vous leur faites une remarque et tout d'un coup, ils se braquent, ils réagissent mal, ils ne supportent pas. Et à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui bouillonne. Ils sont susceptibles et ça se passe mal. Ils se mettent en colère, ils s'énervent, ils ne veulent plus vous voir. Vous voyez, ça, c'est le caractère de susceptibilité. Et d'autres personnes, ils ont un caractère doux et humble. Vous leur faites des remarques et eux, au contraire, ils vont réagir différemment. Ah bon ? Tu penses ça vraiment ? Bon, ça veut dire peut-être que je dois changer quelque chose. Ils se remettent en question. Vous voyez, c'est encore des caractères différents. Il y en a qui ont, face à un projet à réaliser, ils ont par exemple un caractère médiocre dans le travail. Donc, on leur confie une tâche, mais ils vont mal la faire, ils vont la négliger, alors que d'autres, ils ont développé en eux un trait de caractère d'excellence. Et vous leur donnez, vous leur confiez une tâche, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent avec le peu qu'ils ont. Et ça, c'est encore un autre trait de caractère. On peut faire, par rapport aux pauvres, par exemple, également, la générosité, par exemple. Un pauvre peut demander dans la même journée à deux personnes de les aider. Il y en a un qui va fermer son cœur et va garder son argent. Et il y en a un autre qui a développé un trait de caractère de générosité qui, face à ce pauvre, lui, sans problème, il va donner, donner, donner. Et face aux besoins des autres, il donne. Donc, vous voyez, là, c'est juste quelques exemples pour vous montrer ce qu'est le caractère. Mais quel est le type de trait de caractère que vous avez ? Peut-être que vous n'êtes pas très fier de la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez essayé de changer, fait des efforts pour essayer de changer. Mais ça n'a pas changé au fil des années ou ça a très peu évolué. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu nous appelle à changer et Dieu nous dit dans sa parole qu'on peut changer et devenir une personne meilleure et qu'on peut développer en nous la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens au chapitre 4, on peut le lire ensemble. au verset 11, la Bible dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alléluia. Vous voyez, beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne consiste à être sauvé, né de nouveau et aller au ciel. Et c'est une erreur. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit sauvé. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme représente Dieu sur terre et que l'homme règne sur la terre et que l'homme marche comme Dieu voulait qu'il marche, que l'homme soit comme son Dieu, comme son Créateur, comme son Père. Et vous voyez, lorsque on a comme image que la vie chrétienne, c'est naître de nouveau, on passe à côté de la vocation pour laquelle Dieu nous a créés premièrement. Parce que Dieu ne nous a pas créés premièrement pour aller au ciel et être sauvés. Parce qu'à la base, on n'avait pas besoin d'être sauvés et d'aller au ciel. Mais je vais vous dire l'une des grandes vocations que Dieu a pour ses enfants. Justement, c'est de nous rendre parfaits, comme Christ. Et on le voit dans Éphésiens 4. La Bible, ça commence certes par le salut, parce qu'on a chuté, vous savez, et le salut, en fait, n'est que le commencement du processus de la destinée de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, au moment où vous naissez de nouveau, vous rentrez dans la famille de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu, c'est simplement que le commencement du changement. Mais toute notre vie, Dieu a un plan pour notre vie. Et ce que Dieu veut, c'est que comme Christ est le premier-né d'entre la création, le modèle parfait que Dieu a mis devant nous, il veut qu'on devienne comme Christ. Et ce serait une erreur d'avoir un autre but premier dans notre vie uniquement. Non, l'un des grands buts de notre vie, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4 qu'il a établi des apôtres, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes dans un but de... Il dit ici, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, est-ce que Dieu a un plan pour ta vie? Oui, il en a un. Il en a plusieurs. Mais déjà, son plan, c'est de te rendre comme Christ. Donc, c'est possible. Imaginez-vous, Dieu veut qu'on développe en nous le caractère de Christ. Et Dieu veut que toi, tel que tu es, tu ne restes pas cette petite personne minable, médiocre, dont tu as cette image de toi, qui ne vaut rien, qui ne peut rien, qui ne va nulle part, qui est simplement un chrétien né de nouveau et qui va aller un jour au ciel. Non, Dieu veut que dans ta vie, tu sois exposé à certaines choses qui vont faire que ton caractère va changer et devenir comme Christ. C'est l'un des grands buts et l'un des grands rêves que Dieu a pour toi, que tu sois rendu semblable à Jésus. Vous voyez? Donc Dieu veut que le caractère de Christ se forme en nous. Et Dieu dit que le caractère de Christ peut se former en nous. Son caractère de douceur, son caractère d'humilité, son caractère d'amour, son caractère de patience, son caractère de persévérance, son caractère de foi, son caractère parfait. Vous voyez, Christ, franchement, il est le seul homme que j'ai connu, que je peux regarder, où je me dis, je ne vois aucun défaut en lui. Aucun. Franchement, aucun. Peu importe les situations qu'il a pu traverser pendant ses 3 années de ministère, même son enfance, je ne vois aucun défaut en Christ. Même après sa résurrection, quand il apparaît, aucun défaut, il n'est que perfection. Franchement, lisez la Bible. Lisez ce que Jésus fait. Essayez de lui trouver un défaut. Il n'y en a pas. Parce qu'il a tous les traits de caractère dans sa vie façonnés à la perfection. Aïe, aïe, aïe. Et quand je pense que Dieu veut, par l'action de son esprit, au travers des ministères qu'il a établis, et tout ce qu'il a établi, me transformer pour me rendre semblable à Christ, je me dis, waouh! Je peux, moi aussi, grandir en stature, grandir en grâce, grandir en caractère, pour me tenir en face des hommes et qu'un homme puisse dire « Waouh, il n'y a aucun défaut en lui, il est parfait. Il réagit parfaitement. On le frappe, il est parfait. On le félicite, il réagit parfaitement. Il échoue, il réagit parfaitement. Il y a une situation qui l'expose à l'humiliation, il est parfait. Parfait en tout. » Parfait en amour, parfait en patience, parfait en bonté, parfait en puissance, parfait en foi, parfait en... Parfait. Donc Christ est notre modèle. Et Dieu dit, voilà le premier-né, soyez comme lui. Et toute votre vie, Dieu et le Saint-Esprit va travailler pour que vous deveniez comme Christ. Et il ne faut pas perdre de vue cela, frères et sœurs. Parce que travailler son caractère, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas Dieu qui le fait tout seul. Parce que si Dieu le faisait tout seul, on serait tous parfaits aujourd'hui. Ce serait une erreur de croire que lorsque le jour du Seigneur reviendra, il claquera des doigts et en un instant, on sera changé dans notre corps, on revêtira notre corps glorifié. Et ce serait une erreur de se dire « je vais attendre ce jour pour devenir parfait ». Où ma chair ne sera plus là. Non, ce passage parle de notre vie sur terre, où Dieu dit qu'on peut devenir comme Christ. Et quand je vous disais tout à l'heure que je ne connais pas un homme dans lequel je n'ai vu aucun défaut, et c'est vrai, je suis désolé s'il y en a qui sont déçus aujourd'hui. Le premier dans lequel je vois des défauts, c'est moi, mais j'en vois aussi dans chacun d'entre vous. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur tout le monde. Il y en a que je ne connais pas. Mais même si je ne vous connais pas, j'en ai déjà vu. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais il y a d'autres hommes que je connais, notamment un homme qui se rapproche vraiment de la stature de Christ, que je connais. Bon, je ne vais pas dire son nom, mais cet homme... Il ressemble tellement à Christ que j'ai du mal à entrevoir des défauts dans sa vie également. Et l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Et si Paul pouvait dire d'être son imitateur, c'est parce que Paul savait, non pas qu'il avait achevé la course, non pas qu'il était rendu comme Christ, mais il savait qu'il avait croix en perfection, qu'il avait façonné son caractère et que son caractère se rapprochait de celui de Christ. Et d'ailleurs, l'un des grands buts de sa vie, c'était de parvenir au même type de vie que Christ, de même souffrir comme Christ a souffert à cause de son caractère pour avoir le même type de résurrection que Christ. Il voulait parfaitement s'identifier à Christ dans sa vie et c'était une grande vision de la vie de l'apôtre Paul. Alors, j'introduis simplement cela pour vous dire que nous devons avoir cette vision. Parce que si nous n'avons pas la vision de devenir meilleur, nous n'allons pas changer. Et lorsqu'un jour j'ai demandé à Dieu, « Mais Seigneur, comment faire pour changer mon caractère ?» Ce n'est pas simple. Et vous savez ce que c'est de... vouloir changer, on a du mal. C'est pas facile. On croit qu'on n'y arrivera jamais. Et Dieu m'a donné cette image. L'image d'une pierre. Comme celle-ci. Vous voyez, cette pierre, elle a un certain caractère. Elle a une certaine forme. Elle a des côtés coupants, tranchants. Pointu. Ce genre de pierres, vous pouvez les trouver sur les montagnes. Mais vous savez que cette pierre peut changer son caractère, n'est-ce pas? Comment cette pierre va faire pour changer de caractère? Pour que ses côtés pointus et tranchants deviennent doux, lisses, et une pierre polie comme on peut trouver près des rivières. C'est possible? Et Dieu m'a dit que pour changer le caractère d'une pierre, il faut que la pierre subisse le principe de l'érosion. L'érosion par l'eau, l'érosion par le vent, ou l'érosion par le contact avec l'homme. Vous voyez, cette pierre, si on veut qu'elle change de caractère, il va falloir qu'elle soit mise en contact avec de l'eau. Et si pendant de longues années, elle est mise en contact avec de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être polie, polie, polie. Vous revenez des années plus tard, vous ne reconnaîtrez plus la pierre. Elle a changé, totalement changé de caractère. Et c'est ce côté de caractère tranchant qu'elle a, elle va devenir toute douce et toute polie. Parce qu'elle a été en contact avec de l'eau. Mettez cette pierre dans un endroit où il y a beaucoup de vent et de sable. Et vous verrez qu'au contact avec le vent, l'érosion par le vent, cette pierre va aussi changer de caractère. Elle va être différente. Et mettez cette pierre au contact de l'homme et vous verrez, à un moment donné, en fonction de ce que l'homme va faire, cette pierre va aussi être façonnée et changer son caractère. Vous savez, Dieu utilise souvent les images de la nature, de ce qu'il a mis dans la nature pour illustrer des réalités spirituelles. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas des choses que j'ai lues, mais c'est vraiment le fruit de ma révélation personnelle. Et je sais que comme cette pierre peut changer de caractère, Dieu peut aussi, au travers de l'eau, au travers du vent et au travers du contact avec l'homme, changer notre caractère. Qu'est-ce que représente l'eau dans la Bible ? L'eau représente la parole de Dieu. Qu'est-ce que représente le vent dans la Bible ? Le vent représente la présence de Dieu. Qu'est-ce que représente le contact avec l'homme ? Et ça représente l'homme et le caractère de l'homme. Donc, si on met cela en parallèle, ça veut dire que pour que l'homme puisse changer son caractère, pour que nous puissions changer notre caractère, il faut que nous soyons en contact avec des éléments extérieurs que nous-mêmes. Il faut qu'on soit en contact avec la parole de Dieu, la présence de Dieu ou avec notre prochain. Sans cela, c'est impossible de changer notre caractère. Et beaucoup de chrétiens, et malheureusement, c'est pour cela qu'on rencontre de moins en moins de chrétiens qui deviennent semblables à Christ, mais de plus en plus de chrétiens charnels, parce qu'en fait, les chrétiens pensent qu'en faisant des efforts sur eux-mêmes, ils peuvent changer. Comme moi, à l'âge de 13-14 ans, je pensais qu'en travaillant sur moi-même, je pouvais, avec mes propres efforts, changer. Mais c'est impossible qu'un homme puisse changer son caractère, à moins d'être en contact soit avec de l'eau, soit avec du vent, soit avec l'homme. Donc, certains chrétiens, qui justement ont des mauvais traits de caractère, ils vont faire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour changer. Pour que le caractère change, il faut être en contact, par exemple, avec des hommes. Et les chrétiens vont de plus en plus, et plus les années passent, s'enfermer et s'isoler pour vivre leur foi chez eux. Ils ne vont plus se frotter aux frères et sœurs. Ils ne vont plus rentrer en contact avec l'homme. Parce qu'en fait, ils se disent « Mais je ne veux plus être blessé. Je ne veux plus souffrir. Je veux vivre ma foi chez moi. » Mais je peux vous dire, si on ne se fréquente plus aux hommes, on ne change pas notre caractère. Parce que vous pouvez prendre cette pierre et la laisser pendant 1000 ans dans un endroit où il n'y a ni eau, ni vent, ni homme. Vous revenez 1000 ans plus tard, vous retrouverez la pierre identique, elle n'aura pas changé d'un seul aspect. Mais prenez cette même pierre et exposez-la à des éléments extérieurs et vous verrez, elle va changer au fil des années. Donc, pour changer, il faut être en contact avec des choses extérieures à nous-mêmes. Si tu veux devenir meilleur, si tu veux devenir comme Christ, il va falloir entrer en contact avec ces choses extérieures. Une chose qu'on voit également avec la pierre, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Changer son caractère est un processus qui va prendre du temps, qui va prendre des années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors on peut voir ensemble déjà le premier point qui nous permet de changer notre caractère, le contact avec l'eau, avec la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu change notre caractère? Vous êtes-vous demandé, posé la question? pourquoi, je vous la pose. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle nous transforme? En fait, ce qui façonne le caractère d'un homme, c'est l'enseignement. Vous prenez un enfant et l'enfant grandit et il grandit et il développe des mauvais traits de caractère. Vous vous demandez pourquoi l'enfant développe des mauvais traits de caractère? Ben, simplement parce que le monde l'a enseigné des mauvais principes. Le monde l'a enseigné des mauvaises façons de penser. Vous avez vu, on a enseigné à l'Église la différence entre le système de pensée du monde et le système de pensée de Dieu, du royaume de Dieu, et on voit qu'il y a une différence. Mais lorsque l'enfant grandit, il va être exposé à toutes sortes d'enseignements, à toutes sortes de valeurs, à toutes sortes de conseils, à toutes sortes de corrections, à toutes sortes d'enseignements qui vont être des mauvais enseignements. Par exemple, dans le monde, on apprend qu'il faut rendre le mal par le mal. Donc l'enfant va commencer à grandir et quand on va lui faire du mal, il va réagir en rendant le mal pour le mal. Jésus a dit, vous avez appris œil pour œil. Et cela va façonner en nous, dent pour dent, œil pour œil, va façonner en nous des mauvais traits de caractère. Donc ces mauvais traits de caractère qu'un homme développe, en fait c'est le résultat de l'enseignement qu'il a eu dans sa vie. Il y a des mauvais enseignements qui façonnent des mauvais traits de caractère. Il y a des bons enseignements qui façonnent des bons traits de caractère. Et en ce sens, la parole de Dieu est la vérité, comme vous l'avez dit. Et cette vérité, c'est le bon enseignement. Ce sont les bonnes vérités qu'on entend, les bonnes manières de penser qu'on entend, les bons enseignements qu'on entend qui font qu'on réagit comme Dieu réagirait. Et cela façonne en nous des bons traits de caractère. Le mauvais enseignement, c'est l'enseignement du monde. Le bon enseignement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi l'enseignement façonne notre caractère? La Bible dit dans Proverbes au chapitre 23 et au verset 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Proverbes 23, 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Qu'est-ce que ce verset signifie? Ce verset signifie que ce sont nos pensées qui déterminent nos actions. On pourrait lire ce verset autrement en disant « L'homme, les actions que vont poser un homme seront le fruit de ses pensées » ou « De la manière dont un homme pense, il va finir par agir » ou « Un homme agit comme il pense ». Et là, il y a une vérité importante à comprendre, frères et sœurs, c'est que, écoutez bien, nos pensées, la manière dont on pense, détermine nos actions. Les actions que l'on pose déterminent des habitudes. Et les habitudes que l'on a façonnent en nous des traits de caractère. C'est ce que ce verset dit. Ce verset dit que c'est parce que vous pensez d'une certaine façon, dans votre âme, dans votre intelligence, que vous allez réagir et poser certaines actions. Si quelqu'un, par exemple, a un caractère susceptible, dès qu'on lui fait une remarque, qui peut être une remarque constructive, et qu'il va tout de suite se braquer, se mettre en colère, pourquoi il réagit comme ça? C'est parce que d'abord, en lui, il pense d'une certaine façon. Et ses pensées lui disent... Il t'a fait un reproche parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il trouve que tu n'es pas assez bien et que tu dois changer. Et si tu dois, il veut que tu changes parce que sinon il n'est pas capable de t'aimer. Et oui, c'est fou. Mais les personnes qui sont susceptibles pensent tout un tas de choses comme ça, sans même qu'elles s'en rendent compte. Mais c'est parce que leurs pensées sont comme ça qu'elles réagissent de cette façon. En réalité, ce sont nos pensées qui déterminent nos actions. Donc Dieu sait que si par l'enseignement de sa parole, il arrive à changer nos mauvaises façons de penser que le monde nous a appris, on va changer nos actions. Et quand on va agir différemment, d'une manière régulière, 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 ça va façonner en nous, ça va façonner en nous des habitudes. Et ces habitudes vont façonner en nous des traits de caractère. Vous entendez souvent ces enseignants de la parole de Dieu dire que faites-le pendant 21 jours, parce qu'au bout de 21 jours, et la science le dit aussi, après, vous n'avez plus d'efforts à faire, c'est acquis pour la vie. Vous connaissez ce principe ? Non ? Oui, pour certains, d'autres non. En tout cas, on dit, et la science le prouve, que si on fait quelque chose pendant 21 jours, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, si on le fait tous les jours pendant 21 jours, qui fait qu'après, ça devient facile. Après, ça devient une habitude. Et effectivement, si on repart depuis le début, lorsqu'on entend l'enseignement de la parole de Dieu, si cet enseignement change notre mauvaise façon de penser, automatiquement, nous allons agir différemment. Voyez, si des chrétiens, on a l'impression qu'ils ne changent pas, ils restent les mêmes, ils font des formations bibliques pendant des années, au bout de la formation biblique, ils sont toujours les mêmes, ils vont à l'église tous les dimanches, ils sont toujours les mêmes, ils sont toujours charnels, ils réagissent toujours mal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement suffisamment dans leur âme, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas eu cette révélation dans leur pensée qui a fait que leur pensée a changé. Et quand nos pensées changent par l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'on agit différemment. Et quand on agit différemment, régulièrement, régulièrement, ça devient des habitudes. Et ces habitudes façonnent en nous des traits de caractère. La Bible dit dans Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel ou à la manière de penser du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de votre pensée ou de votre pensée. » Donc je peux lire cela autrement, « Ne vous conformez pas à la manière de penser du monde, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre pensée. » Et ici, l'apôtre Paul va exprimer une grande vérité. Il va dire, maintenant vous êtes enfant de Dieu. Maintenant vous avez connu la vérité. Maintenant Dieu a établi des enseignants. Dieu vous a placé dans une église avec des enseignants, des pasteurs. Maintenant vous avez entendu la bonne parole de Jésus-Christ. Il est temps que vous ne soyez pas comme les gens de ce monde, mais que vous recevez cette parole et que cette parole change vos pensées. On dit souvent que nous devenons ce que nous entendons régulièrement. Je prends un exemple concret. Vous voyez, le monde, par exemple, nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, œil pour œil, dent pour dent. On nous a appris cela. Et on nous a appris tellement de choses. Et ces choses du monde ont façonné en nous ces enseignements qu'on a eus, ces exemples qu'on a eus, ont façonné en nous ces mauvais traits de caractère. Prenons l'exemple œil pour œil, dent pour dent. Jésus a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'à ce que je vienne, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'à ce que moi, le Fils de Dieu, la lumière du monde, je vienne et que je vous offre un nouvel enseignement. Et personne n'avait parlé comme Jésus a parlé avant. Mais Jésus arrive avec un enseignement révolutionnaire, un enseignement qui change les façons de penser du monde. Et il dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, dans Matthieu chapitre 5, verset 38. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et vous voyez ici, il dit « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Autrement, Jésus est en train de dire que si nous réagissons comme le Père réagit, ça veut dire qu'en nous, nous avons le caractère de Dieu et que nous sommes comme notre Père qui est dans les cieux. Donc nous sommes réellement ses fils. Ici, il ne parle pas d'être né de nouveau enfant de Dieu. Ici, il emploie le mot « fils ». C'est-à-dire, nous avons grandi et nous avons développé en nous un caractère mature qui ressemble à celui de notre Père et on a le caractère du Père parce qu'on réagit comme le Père réagirait. Et laissez-moi vous montrer comment le Père réagirait, Jésus dit. Et Jésus arrive avec cet enseignement révolutionnaire. Aucun homme n'a parlé comme lui. Aucun homme n'a éclairé les ténèbres comme lui. Aucun homme n'a tenu un langage comme Jésus-Christ a tenu. Aucun homme n'a été semblable à lui. Et pourquoi Jésus était si différent? Parce que Jésus pensait différemment. Il venait d'un autre monde. Il venait du ciel. Il venait d'un autre royaume. Il venait du royaume des cieux. Et aucun homme, pas même David, pas même Élie, pas même Moïse, pas même Abraham, n'avait connu l'enseignement du ciel. Mais Jésus, lui, l'a connu et il nous l'a révélé. Frères et sœurs, on vit dans un temps où les gens vont de plus en plus à l'église écouter des pasteurs, mais des pasteurs qui ne prêchent plus la parole de Christ. Ils prêchent toutes sortes de choses, des révélations de l'apôtre Paul, et on cherche des révélations et des nouvelles révélations et des nouvelles révélations. Et on réalise, quand on écoute ces enseignements, même sur les sites chrétiens, qu'au final, très peu d'enseignants prêchent les paroles de Christ. Mais ce que Christ a enseigné, c'est la vérité qui vient du ciel. Ce que Jésus a enseigné, c'est la vérité qui change notre façon de penser. Et nous devons retourner aux paroles de Christ avant même d'autres choses. Nous devons retourner à ce que Jésus a dit. Frères et sœurs, il y a tellement de vérité dans les évangiles. Et parfois on lit la Bible, c'est vrai. Mais parfois on oublie de retourner aux évangiles. Vous savez, avant je trouvais que les évangiles, bon, c'est du déjà vu, c'est les évangiles. Et j'allais dans les épîtres, la doctrine, etc. etc. Mais plus j'avance avec Dieu, plus le Saint-Esprit me ramène aux paroles de Christ dans les évangiles. Elles sont profondes. Elles sont puissantes. Elles sont tellement vraies. Elles nous façonnent, elles nous transforment. Et on prend cet exemple, cette simple parole de Christ. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous apprends quelque chose de nouveau. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Aimez votre prochain. Oh, encore s'il nous avait dit d'aimer quelqu'un qui nous fait du bien. Mais Jésus va plus loin. Il dit aimez vos détracteurs. Aimez ceux qui vous font du mal. Si on veut vous maltraiter et qu'on veut vous contraindre à faire des choses, 1 kilomètre, faites-en 2. Si on veut vous voler votre chemise, donnez également votre manteau. Quelle conception, quel caractère d'amour. Jésus est venu changer notre mentalité. Jésus est venu nous montrer un autre exemple, l'exemple de la perfection de Dieu. Et Jésus, ce qu'il faisait dans les évangiles, il guérissait, il chassait des démons, mais il enseignait. Il essayait de changer le système de pensée de ce monde. Et là où il y avait des ténèbres et des mauvais traits de caractère, Jésus venait apporter son enseignement révolutionnaire pour que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et qu'il change sa façon de penser. Et en changeant sa façon de penser, il change ses actions. Donc quand on prend cet exemple de la parole de Jésus, et que Jésus dit, quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de mal réagir, réagis comme je te dis de réagir. Ok Seigneur, tu as dit que si quelqu'un me critique, si quelqu'un dit des mensonges sur moi, je dois bénir cette personne, je dois aimer cette personne, je dois prier pour cette personne. Ok, je vais le faire. Au début, ça ne change pas votre caractère. Vous entendez la parole ? Elle fait son bout de chemin dans votre tête. Mais là, vous avez le choix. Soit de décider d'obéir à la parole de Christ, soit décider de ne pas obéir. Et quand vous entendez cette parole et que Jésus vous dit qu'il faut aimer, alors qu'on vous fait du mal, c'est absurde. Pour le monde, ça n'a aucun sens. Mais le monde, c'est le système de pensée de Satan, c'est les ténèbres, c'est les mauvais traits de caractère. Et si on continue à penser comme ça, on va rester les mêmes. Mais la Bible dit qu'on est appelé à être des fils de Dieu. Et là, l'enseignement de Jésus qu'il nous donne va changer notre façon de penser et on va commencer à appliquer ce système de pensée. Ok, je dois aimer, alors je vais aimer. Oh, combien de fois on m'a fait du mal. Je me souviens de cette fille. Elle est allée dire à plein de pasteurs, parce que j'avais fait sa délivrance, elle avait un mauvais esprit, mais elle était amoureuse de moi. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, j'ai pas de sentiments pour toi. Et elle venait, j'avais fait sa délivrance avec un frère et une sœur. Et là, elle est allée dire à plein de pasteurs que pendant que j'ai fait sa délivrance, j'avais eu des attouchements, etc. sur elle. Oh, ça m'a fait mal. Elle avait appelé des grands pasteurs de France que je connaissais. Et heureusement, son beau-frère et sa sœur étaient là ce jour-là et ils m'ont défendu. Mais cette personne a dit toutes sortes de mal sur moi et j'aurais pu mal réagir. J'aurais pu, mais je l'ai béni. J'ai appris à appliquer l'enseignement de Jésus, je l'ai aimé, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Un an plus tard, en pleurs, elle m'a téléphoné, elle était chez sa belle-sœur et chez son beau-frère et chez sa sœur. Et elle m'a appelé en me demandant pardon. Pardon d'avoir menti à ton sujet. Pardon, je vais réparer mes erreurs et je vais appeler tous ces gens. Mais vous voyez, tout ça, je vous dis, je sais ce que c'est. Mais quand vous entendez cet enseignement, même quand vous n'avez pas envie de le faire, vous commencez à le faire, vous posez des actions. Et à force de le faire dans votre vie et de réagir toujours de la même façon, vous vous rendez compte que cela crée une habitude à l'intérieur de vous. Et que cette habitude crée, façonne des traits de caractère. Et tout d'un coup, après, à force de réagir comme ça, ce trait de caractère est là et on vous fait du tort. Et ça coule sur vous. Et vous aimez naturellement, parce que le caractère de l'amour s'est façonné en vous, parce qu'à la base, à la source, tout a commencé dans vos pensées. Donc la parole de Dieu nous dit la vérité. La parole de Dieu nous enseigne la ligne de conduite qu'on doit suivre. La parole de Dieu nous enseigne comment est Dieu et comment Dieu réagirait. Et c'est à nous de prendre cette parole et de la croire et de la mettre en pratique. Vous savez, si vous prenez cette pierre et vous la mettez dans l'eau d'une baignoire, et vous revenez 100 ans plus tard, cette pierre sera toujours identique ou quasiment identique. Elle n'aura pas eu un grand changement de caractère. Pourquoi ? Parce que vous l'avez laissée dans de l'eau sans qu'elle soit en mouvement. Et là, il y a une belle illustration. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens font des instituts bibliques et ne changent pas. Beaucoup de chrétiens vont à l'église et ne changent pas. Parce qu'en fait, ils entendent la parole, ils sont exposés à la parole, ils sont mis dans l'eau, mais l'eau n'est pas en mouvement et ne les fait pas bouger. Cette pierre, vous la mettez dans la rivière. Et l'eau de la rivière va bouger cette pierre, et cette pierre va cogner d'autres pierres, et cette pierre va rouler, 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 et l'eau va passer, et vous allez voir, elle va être lissée, son caractère va totalement changer, et être totalement transformée, parce qu'en fait, elle a été en mouvement. Un pasteur me disait, bon après je vais vous le dire ça, on peut lire ensemble dans Jacques chapitre 1, verset 23, car si quelqu'un, Jacques chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. En gros, on entend la parole, c'est comme si on se regardait dans un miroir, on voit une grosse tache, on voit des défauts en se réveillant le matin. Et on oublie ce qu'on a vu et on va au travail. Ça a servi à rien de se regarder. Autrement dit, c'est profond. C'est profond, c'est très profond. Mais ce que Dieu dit au travers de l'apôtre Jacques, c'est que si on entend l'enseignement qui change nos pensées et qu'on n'agit pas en conséquence, ça ne produira absolument rien dans nos vies. Vous voyez ? Donc tout ce qu'on nous apprend à l'église, Tout ce qu'on nous apprend dans nos formations bibliques, tout ce qu'on nous apprend quand vous méditez la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous révèle des choses et que vous lisez, si vous ne faites pas l'effort d'appliquer ce qui est écrit dans votre vie de manière concrète, il y a tous les jours des occasions d'appliquer la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, n'espérez pas changer. Vous mourrez les mêmes. Vous mourrez les mêmes. Vous mourrez des auditeurs oublieux. Vous mourrez avec tout un tas de défauts sur le visage. Vous vous êtes vu tellement fois, chaque dimanche matin, vous avez vu votre laideur, vous avez vu vos défauts, vous avez vu tout ce qu'il faut changer et vous avez oublié parce que vous n'avez pas agi. Mais si vous agissez sur la parole de Dieu, vous êtes semblable à cette pierre qui est mise non dans une baignoire, mais qui est mise dans l'eau d'une rivière. Et elle va rouler, rouler, se frotter et se fracasser et casser des bords et être taillée à la perfection entre les mains du divin potier parce qu'on a décidé d'agir. Le mouvement dans l'eau, c'est l'action. Frères et sœurs, on doit agir. On doit agir. Je prends juste cet exemple de Jésus qu'on l'a dit parce qu'il est très parlant. Il a dit aussi un autre exemple de ce genre qui est tellement vrai, tellement spirituel, tellement profond. Quand si un frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Oh, il n'y a pas besoin de grandes révélations pour comprendre ce passage. Si tu sais, non pas que toi, à l'intérieur de toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, mais si à l'église, tu vois que quelqu'un ne t'a pas salué et que tu sais que cette personne a quelque chose contre toi, laisse-la ton adoration, laisse-la ce temps. Il y a quelque chose de prioritaire. Va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui. Et quand vous entendez cet enseignement, vous pouvez voir vos défauts dans un miroir et ne rien faire, ou simplement le voir, le recevoir et aller agir et dire « Mon frère, ma sœur, j'ai remarqué que ça fait un moment et j'ai entendu que tu as dit ça sur moi. Écoute, j'aimerais rectifier les choses. Je dois te dire, tu sais, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis ou je ne sais pas quel tort j'ai pu te faire, mais je te demande pardon si je t'ai blessé. » Vous agissez avec humilité et tout à coup, à force de réagir comme ça, le trait de caractère de l'humilité se forme en vous. Et tout à coup, à force de réagir comme ça, le trait de caractère de l'amour se forme en vous. Et tout à coup, à force de réagir comme ça, année après année, mois après mois, le trait de caractère de Christ se forme en vous. Et au lieu d'être braqué, « Oh, il ne m'aime pas, oh, je ne veux plus le voir oh, », l'enseignement, vous avez agi dessus. Et il a créé des habitudes en vous qui ont façonné un trait de caractère. Vous voyez ? Vous comprenez ? Frères et sœurs, nous devons agir sur la parole. Elle contient tellement de vérités qui permettent de changer et de transformer, d'améliorer notre caractère pour le rendre semblable à Christ. L'autre chose, c'est que la pierre doit demeurer dans l'eau. Il ne s'agit pas de mettre la pierre quelques instants dans l'eau, même de l'eau en mouvement. Vous reprenez la pierre 2 jours plus tard, elle sera toujours pareille, toujours aussi tranchante. Il s'agit de laisser la pierre dans l'eau. Pendant longtemps, on doit être exposé à l'eau et demeurer dans l'eau. Et ici, ça parle du fait de demeurer dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible de plus en plus, mais peu de chrétiens méditent la parole de Dieu. Méditer, c'est quoi ? Méditer, c'est ne pas passer du coq à l'âne. Méditer, ce n'est pas... C'est aujourd'hui, je lis sur l'amour, demain, je lis sur... L'Apocalypse, après-demain, je lis sur la guérison. Dans un mois, je lis ça. Et tous les jours, je change de thème. Ça ne vous changera pas. Ou très peu. Un pasteur d'une église à Paris me disait, il réalisait que les gens dans son église ne changeaient pas. Ils restaient des bébés spirituels, malgré les enseignements. Et le Seigneur lui a montré pourquoi. Il lui a dit, fais des séries. Tu ne restes pas assez longtemps sur le même thème pendant plusieurs semaines. Et il changeait de thème tous les dimanches. Il prêchait sur le Saint-Esprit un dimanche, le dimanche suivant il prêchait sur la prière, le dimanche suivant sur la foi, le dimanche suivant sur la générosité par exemple. Et il réalisait que les gens restaient pareils. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut demeurer dans un même sujet. Ceux qui changeaient, c'était ceux qui, après avoir entendu la parole, prenaient le temps de continuer à le méditer pendant des mois chez eux. Mais il réalisait que les gens ne le faisaient pas. Alors il a commencé à changer. Et ce pasteur a commencé à enseigner des séries de thèmes pouvant aller de 2 à 3 mois le même thème. Et il a vu un changement radical. Des gens qu'il disait, des népios, des bébés, sont devenus des youos, des fils de Dieu. des gens matures dans le caractère. Parce que nous devons demeurer. Et je crois que c'est aussi un défi dans les instituts bibliques. On veut nous apprendre tellement de choses, tellement rapidement, qu'on n'a pas le temps d'assimiler les choses et de demeurer sur un même thème assez longtemps pour changer. Mais c'est là le défi. Il faut méditer. Et ce n'est pas juste le travail de l'Église. Ça ne suffit pas. C'est le travail d'une vie individuelle de consécration dans la parole de Dieu. Alors, je vous pose la question. Quelle est votre vie de méditation dans la parole? Méditation, pas de lecture. Méditation. Quand est-ce la dernière fois que vous avez choisi un thème, comme par exemple la foi, et vous êtes resté sur ce thème pendant 3 mois, presque tous les jours ou toutes les semaines à méditer sur la foi? Jésus, la foi, l'enseignement de la foi. Peut-être certains, vous me direz jamais. Alors ne vous étonnez pas que le trait de caractère de la foi ne se manifeste pas dans vos vies. Ce n'est tout simplement pas possible. Parce que la pierre doit rester dans l'eau. Parce que l'homme doit rester au contact de la parole de Dieu sur un même thème pour que ce thème ait le temps de changer notre façon de penser. Vous comprenez? Nous devons demeurer sur des thèmes. Nous devons la méditer. Et c'est ça, méditer. Méditer, ce n'est pas changer tout le temps de thème. C'est mal méditer, ça. Bien méditer, c'est rester, aller en profondeur. On médite sur la foi, comment Jésus a guéri Jairus, comment ce centenier est venu face à Jésus et a dit « Oh, moi j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et toi, Seigneur Jésus, tu dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, tu n'as pas besoin de venir chez moi. » Et là, vous lisez ça et vous méditez ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, des fois, je suis comme le pasteur Joël. Je reste sur quelque chose pendant 1 mois, s'il faut, tant que cette chose ne m'est pas révélée. Et après, à un moment donné, la révélation vient. Et là, le changement se produit dans ma mentalité. Et mes actions changent. Et des habitudes se créent. Et le caractère est façonné. Et là, vous méditez sur cette parole de Jésus, par exemple. Je pense à voix haute. Et là, ce centenier... Il dit ça, et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais la foi de cet homme est grande. Il n'avait vu Jésus que poser des mains sur des gens. Et là, il voit en Jésus celui à qui tout obéit. Il n'a même pas besoin de mettre les pieds dans ma maison pour que je sois guéri. Il n'a même pas besoin de quelque chose de physique, un toucher, mais sa simple parole qui a créé le monde, sa simple parole qui m'a créé, la simple parole du Fils de Dieu suffit à guérir à distance mon serviteur. Parce que lorsqu'il dit un mot, toute la création angélique, le ciel est ouvert, descend et obéit à sa parole pour guérir cet homme. Waouh ! Et là, vous commencez à méditer, vous passez à un autre sujet sur la foi. Pierre, dans l'eau, je pense à voix haute. Il est là et Jésus lui dit « Viens !» Et il va marcher sur l'eau. Et vous voyez, Pierre commence à marcher sur l'eau et tout à coup, il regarde aux circonstances, il regarde au vent, à la tempête qui s'abat, à la pluie, et il a peur de couler. Et il a défixé ses yeux de la parole de Dieu et il a fixé ses yeux sur les circonstances naturelles. Et tout d'un coup, Pierre tombe dans l'eau. Et là, vous vous réalisez, vous dites « Oh, mais ça dépend de moi, ça ne dépend pas de Dieu. Jésus avait donné sa parole, mais tant que Pierre agissait dans la foi, il était dans le surnaturel. Mais au moment où le doute est venu, mais pourquoi le doute est venu? Le doute est venu parce que Pierre a fixé ses yeux sur les circonstances. Mais moi aussi, je doute parce que je regarde, mais je fixe mes yeux sur mon compte bancaire, sur les factures qui viennent. Mais je ne devrais pas. Oh, je change d'attitude, je fais comme Pierre, je regarde les yeux sur Jésus et non pas sur les circonstances. Et là, votre foi est façonnée. Et vous commencez à changer. Vous voyez, c'est ça, méditer. Méditer, méditer, méditer. Vous restez. Et ça, ça change vos habitudes. Et ça façonne un trait de caractère. Le deuxième point, ils sont plus courts, c'est le contact avec le vent qui représente la présence de Dieu. On l'a déjà vu ensemble. certaines personnes disent que ce qui change le caractère des hommes, ce qui les change, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas la présence de Dieu. J'étais d'accord pendant un temps. Parce que ces enseignants qui enseignent cela, ils disent quoi ? Ils disent qu'on a imposé les mains aux gens tellement de fois. Ils sont tombés. Ils se relèvent, ils sont toujours les mêmes et ils ne changent pas. Toujours aussi charnels. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'être exposé à la présence de Dieu ne nous change pas. Ça voudrait dire que la présence de Dieu simplement aurait pour action de briser le joug sur notre vie ou de nous faire parler en langue ? Non. Je sais, et la Bible nous le montre, que la présence de Dieu, lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu, notre caractère change. Souvenez-vous, dans Actes, Pierre, cet homme peureux, qui avait honte de Jésus, qui avait peur de mourir, et il a préféré renier Jésus, tout d'un coup, cet homme peureux, lorsqu'il est exposé dans la présence de Dieu et rempli du Saint-Esprit, son esprit est saturé de la présence du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Souvenez-vous, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas prophétiser. Ça, c'est les conséquences de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est à plusieurs niveaux. Et là, Pierre était rempli jusqu'à déborder. Rempli, quand la Bible dit rempli dans les actes, elle veut dire vraiment rempli. Rempli jusqu'à déborder. Et dans son esprit, Dieu a déversé une telle présence, un tel niveau de sa présence, que cette présence débordait de son esprit jusqu'à jaillir dans tout son être. Et quand ça jaillit dans son âme, et quand ça jaillit dans son corps, c'est là que la Bible appelle cela être rempli du Saint-Esprit, dans Actes en tout cas. Rempli jusqu'à déborder, rempli jusqu'à ce que ça remplisse tout son être, esprit, âme et corps. Et c'est pour ça que le Pierre en question, tout d'un coup, devient un autre homme. Mais ce n'est pas uniquement l'esprit de Pierre, le fait qu'il avait le Saint-Esprit en lui, qui a fait que Pierre, tout d'un coup, du peureux qu'il était dans son âme, s'est devenu fort dans son âme. C'est lorsque la présence de Dieu a rempli l'esprit de Pierre et débordé dans son âme jusqu'à toucher ses émotions, sa volonté, son intelligence, tout à coup Pierre s'est retrouvé avec une intelligence nouvelle où il a pu expliquer des textes de l'Ancienne Alliance avec une telle révélation, une telle clarté. La présence de Dieu a débordé dans son âme et a fait soumettre son vieil homme, soumettre sa vieille chair, soumettre sa vieille nature, soumettre même son vieux caractère et a laissé place à l'exposition du caractère de Christ et au fruit de l'esprit dans sa vie. Et c'est là que Pierre, de peureux qu'il était, est devenu Pierre rempli de foi. Vous voyez, être exposé à la présence de Dieu à un niveau d'intensité fort pendant qu'on est rempli, notre caractère se soumet au caractère de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste des frissons. Ce n'est pas juste une pesanteur, ce n'est pas juste quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous plaque au sol et qui vous fait pleurer ou qui vous guérit. Non, être rempli du Saint-Esprit, c'est encore quelque chose qui va à une autre dimension. C'est Dieu qui prend la place en vous. C'est le caractère de Dieu lui-même qui remplace votre caractère. Aïe, aïe, aïe. Dieu est fidèle lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à déborder dans notre âme, tout d'un coup on devient une personne fidèle. Dieu est amour. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit comme Étienne, prenez Étienne avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit et commencez à lui lancer des pierres. Vous verrez comment Étienne réagirait. Je suis sûr qu'il courrait comme un lapin, il détalerait, il irait se cacher dans son terrier. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit, cet homme rempli de foi et de l'Esprit, on prenait des pierres, on lui jetait dessus et il est tombé à genoux. Il a levé les yeux au ciel et il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié par amour pour eux. Il a été doux, humble et rempli d'amour. Le caractère de Christ était en lui parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit en tout temps, Ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous, parce qu'on peut être rempli pour un temps et manifester le caractère de Christ, et 2-3 jours plus tard, voir le caractère de Dieu diminuer en nous, et tout à coup, notre vieux caractère, le caractère du vieil homme ressurgit. Oh, moi qui étais si bien dans la présence de Dieu, j'avais l'impression qu'on pouvait me dire ce qu'on voulait, j'étais au ciel, ça ne m'atteignait plus. J'aime tout le monde. Je prie, je suis consacré, je suis rempli de foi, j'ai envie d'aider la terre entière. Tout d'un coup, j'ai le caractère de Christ et un jour plus tard, 2 jours plus tard, tout coule. C'est normal. C'est parce qu'on ne l'a pas entretenu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Bien que la Bible nous encourage à être en tout temps rempli du Saint-Esprit et qu'on peut l'être et que ce serait merveilleux si on l'était parce qu'en tout temps, on serait comme Christ, j'ai appris par l'expérience que, certes, l'enseignement nous change, premièrement, mais être exposé régulièrement à la présence de Dieu de manière très régulière, quotidiennement, pendant de longues périodes, et être constamment rempli, 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 quand bien même après, je ne vous encourage pas à ne pas être rempli du Saint-Esprit en disant ça, mais quand bien même après, la présence de Dieu s'étiole en vous, le caractère de Christ reste en vous. Ça va, vous réagissez bien. Personne ne veut me lapider. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'inspiration me vient, je n'avais pas prévu de dire ça, mais regardez, je ne sais plus le passage mais qui me vient, mais nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Ce passage dit qu'il parle avant de l'ancienne alliance qui avait un voile et qui ne voyait pas, et puis le voile est ôté par la nouvelle naissance et on voit Christ. On voit comment il est, au travers d'un miroir. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que ce miroir, si c'était vous? Ou du moins, si ce miroir, c'était Christ en vous? Si lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, Christ se manifeste par vos actions, vous voyez Christ au travers de vous comme au travers d'un miroir? Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous agissez, la gloire de Dieu vient sur vous, vous agissez comme Christ. Vous aimez. Pardonnez. Et là, tout à coup, comme au travers d'un miroir, vous voyez Christ au travers de vous. Cela vous façonne. Cela vous change. Cela transforme même votre mentalité. Comme pour la parole. C'est tout un exemple. C'est tout un témoignage que d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout un témoignage que d'être exposé à la présence de Dieu. Parce que lorsqu'un couple est déchiré et que ça va mal, et que l'un s'enferme dans la chambre et se remplit du Saint-Esprit, et tout d'un coup il trouve en lui la force d'aller vers son conjoint et lui dire « Je te demande pardon si je t'ai blessé ». Au lieu de rester sur son mauvais caractère, rempli d'orgueil et d'amertume, il s'humilie et il demande pardon à cause d'avoir été exposé à la présence de Dieu. Cette présence a développé en lui le caractère de Christ qui l'a poussé à faire un acte que lui-même n'aurait pas fait. Alors, est-ce qu'il ne voit pas Christ au travers d'un miroir? Si. Et cela nous transforme. Plus notre âme est éduquée par la présence de Dieu à agir comme Christ, plus notre âme, notre vieille nature s'affaiblit, et le caractère de Christ se forme en nous. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous agissons d'une certaine façon, comme au travers de la parole peut nous pousser par un changement de mentalité à poser d'autres actions et agir différemment. Mais la vie de Dieu en nous, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, peut aussi nous pousser à changer notre façon d'agir et à façonner en nous des traits de caractère, tout comme la parole. Donc oui, je crois que la présence de Dieu, lorsqu'on est exposé à la présence de Dieu, cela nous transforme. Mais pas une fois, pas deux fois, demeurer dans sa présence. Tout comme la pierre doit demeurer dans le vent, Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Je me souviens un jour, je priais régulièrement que le Seigneur me façonne en moi un trait de caractère d'amour pour les âmes perdues. Et un jour, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et je vous assure, ça valait bien plus que tous les enseignements que je pouvais entendre. Je suis resté pendant 2-3 heures au sol dans ma chambre, en larmes, à remplir. J'avais des flaques d'eau par terre, tellement j'agonisais sur les perdus, en pensant à ceux qui allaient en enfer, simplement parce que le Saint-Esprit m'a rempli. Et en me remplissant, vous savez ce qui s'est passé ? J'ai ressenti le caractère d'amour de Dieu pour les âmes perdues. Et le lendemain, je suis allé dans un supermarché. Je ne pouvais plus marcher la tête haute, tellement je voyais des gens et je pleurais pour les perdus qui étaient là. Le caractère de Christ d'amour se forme en nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Troisième point, le contact avec les hommes. Si cette pierre est mise au contact avec les hommes et l'environnement que crée l'homme, elle va être frottée à l'environnement que crée l'homme et son caractère va également être transformé. Et beaucoup de chrétiens négligent cela. Ils négligent le contact avec les hommes. Pourtant, la Bible dit dans Proverbes au chapitre 27 et au verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, je crois que je lis dans la version second 21, je crois. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur veut et défend l'église locale. Beaucoup de chrétiens veulent vivre leur foi chez eux tout seuls. Il y a beaucoup de bienfaits de l'église locale. L'onction pastorale, la bénédiction de Dieu, la louange, l'adoration à Dieu, venir louer et adorer Dieu ensemble, être un peuple uni. Mais il y a aussi ce caractère important, c'est que au sein de l'église, en fréquentant nos frères et nos sœurs, on se frotte les uns aux autres. Tout comme dans un couple, tout comme avec ses collègues. Et c'est votre contact rapproché avec des personnes qui va façonner en vous votre caractère. Et plus vous aimez une personne, plus cette personne va façonner votre caractère. Plus vous êtes proche d'une personne, plus vous êtes au contact d'une personne, plus vous serez transformé dans votre caractère en bien ou en mal. Parce que quand on est avec un autre, comme le dit ce passage, comme si vous prenez un bout de fer, un autre fer, et vous les frottez ensemble, et le fer va finir par aiguiser l'autre fer. Dieu se sert de votre prochain. Dieu se sert des gens qui sont dans votre entourage pour vous transformer de gloire en gloire. Pas juste la parole, pas juste sa présence, mais aussi votre frère et votre sœur, mais aussi l'incroyant, mais aussi votre patron, mais aussi votre collègue, mais aussi vos enfants, tous les êtres humains, l'homme, Dieu s'en sert pour vous transformer de gloire en gloire. Le fait d'être en contact avec les autres va faire ressortir en vous vos mauvais traits de caractère. Je me souviens lorsque j'étais célibataire, c'était difficile pour moi de changer rapidement parce que je manquais de contact avec les gens régulièrement. Et souvent quand j'avais contact avec des gens et que mon mauvais caractère ressortait, vous savez ce que je faisais? Je m'isolais. Comme j'étais célibataire, bah, j'avais le choix, je voyais personne. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils quittent leur église locale à cause du problème de caractère. Ils se frottent au pasteur. Tant que le pasteur est d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais quand le pasteur n'est pas d'accord avec moi, tout d'un coup, le mauvais trait de caractère ressort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un endroit où ils ne se frotteront plus avec les gens. Et c'est pour ça que la plus grande église au monde, c'est l'église des chrétiens isolés. Malheureusement. Malheureusement. Quand vous voyez que quelqu'un dans votre vie, c'est le pasteur Joël qui disait ça une fois, il avait une citation, je l'ai plus, elle était tellement bien. Mais Dieu utilise la personne, je ne sais pas si tu t'en souviens.
La personne que vous détestez le plus, c'est la personne que Dieu choisit pour votre destinée, pour vous raffiner.
Ouais. Est-ce que tu pourras couper que j'ai dit que c'est le pasteur Joël, je vais le dire. Vous savez, je vais vous dire une phrase puissante. La personne que vous détestez le plus, le plus difficile à aimer, est-ce que vous êtes posé la question si cette personne ne serait pas le choix appointé de Dieu pour vous transformer à l'image de Christ? Mais au lieu de fuir, il faut se frotter à ces gens. Vous savez, ces types de personnes où vous êtes au contact avec eux, ils vous agacent au plus haut niveau. Vous les aimez et aucune reconnaissance, aucune gratitude, aucun merci, rien, tout leur est dû. Collez-vous à eux. Aimez-les encore, donnez et donnez. Parce que là, vous êtes en train de façonner le caractère de l'amour en vous. Et je suis sûr que vous voyez quelqu'un en ce moment précis. Aïe, 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 vous avez eu tort de vous éloigner de cette personne, vous avez perdu de bonnes années, de longues années à rattraper maintenant. Cette personne, en un mois, aurait pu faire le travail de toute une vie. Il faut prendre le téléphone et rappeler cette personne et l'inviter à manger et lui faire un cadeau. Et vous savez pertinemment que cette personne va être ingrate. Et que cette personne ne va pas vous donner l'amour que vous voulez en retour. Mais ce n'est pas grave, offrez-lui le cadeau et invitez-la. Parce qu'à ce moment-là, vous allez frotter un peu plus avec elle. Et là, le caractère de Christ se formera en vous. Lorsque j'ai rencontré mon épouse, comme je vous le disais, tout ce mauvais trait de caractère est ressorti. Et là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je le traite ou sinon je resterais célibataire parce qu'elle ne m'aurait jamais épousé. Ou si je me mariais comme ça, ça aurait fini peut-être en séparation. Parce qu'on ne pouvait pas me faire une réflexion sans que je réagisse mal, parce que je souffrais de rejet, terriblement. Parce que depuis tout petit, quand je voulais jouer, j'avais 5-6 ans, je me souviens très bien, je voulais jouer avec les copains en bas de notre immeuble qui jouaient au football, mon sport préféré. Je venais, j'allais jouer, ils étaient tous 20 personnes, il restait une place, ils étaient un nombre impair, je pouvais jouer et je jouais bien. Mais il disait, non, on ne veut pas que tu joues. Non, vous rigolez, mais ça fait mal. Dès le plus jeune âge, ça façonne en vous des choses mauvaises. Et je me suis senti rejeté. Et c'est arrivé tellement de fois, que j'allais chercher mon papa. Papa, ils ne veulent pas que je joue au foot. Et mon père descendait pour essayer. Mais ça ne réglait pas. Les gens ne m'aiment pas. Pourquoi ? J'ai rien fait. Mais ça m'a fait un trait de caractère susceptible à cause d'un esprit de rejet que j'ai attrapé. Et je ne savais pas, mais dans toutes mes relations que j'entamais, je me souviens une fois, j'avais un couple d'amis, on travaillait ensemble, on se voyait régulièrement, et puis ils ont invité d'autres amis au restaurant, et puis moi, je finissais le travail très tard, j'étais fatigué, j'aurais bien voulu aller au restaurant avec eux, mais ils ne m'avaient pas invité, ils voulaient être avec d'autres amis, il n'y a pas de mal à ça, en couple, face au couple, j'étais célibataire. Et quand j'arrive, je passe par cet endroit où je me rends chez moi, je vois au travers de la vitrine ce couple avec mes autres collègues, l'autre couple. Je me suis senti tellement mal, mais tellement mal. Je me suis senti encore une fois rejeté et j'ai pleuré et je suis parti. Mais c'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas. Et puis, j'ai rencontré ma femme. Et on peut être... Ouais, c'est ça. J'ai encore 15 minutes. J'ai rencontré ma femme et là, elle était en Suisse, j'allais la voir, on était fiancés. Et elle m'a fait une réflexion un jour, je ne lui ai pas parlé pendant 3 jours. C'était quoi? C'était il y a 7 ans. Et je prêchais. Et j'avais de la foi. Mais j'avais un mauvais trait de caractère qui bousillait toutes mes relations avec les gens. Et je n'arrivais pas à changer. Et quand ce mauvais trait de caractère se manifestait, au lieu de le régler dans la parole et la présence de Dieu, parce que le fait d'être frotté aux autres, ça faisait ressortir ce mauvais trait de caractère, je fuyais et je m'isolais. Mais il ne faut jamais faire ça. Il faut affronter l'adversité. Il faut affronter ce mauvais trait de caractère et dire « Je vais te tailler. Je vais te polir. Écoute-moi bien. Toi, t'es pas beau, t'es mauvais, t'es laid. Et je sais ce que la parole de Dieu dit. » Et là, vous prenez la parole de Dieu et vous pensez à Jésus et comment Jésus était, ce que Jésus a dit. Christ était. Et là, vous confrontez ce trait de caractère. Ça fait mal, ça frotte, c'est dur. Des fois, vous avez envie de gémir et vous tombez à genoux devant les hommes. Vous essayez de mettre un frein à votre bouche pour pas montrer vos défauts. Mais là, dans la prière, « Seigneur, change-moi ! Seigneur, je t'adore, tu es tout pour moi ! Seigneur, je te remets cela ! Au nom de Jésus, Seigneur, façonne-moi !» Et vous commencez à l'adorer, vous commencez à contempler Jésus dans l'adoration. Et là, vous revenez en face de ces personnes le lendemain. Mais le fait d'être au contact avec ma femme, fiancée, si je voulais l'épouser, il fallait que je le règle. Pendant 3 jours, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai même pas parlé à ses parents pour vous dire. Alors que j'étais chez ses parents hébergés. Vous imaginez jusqu'à où ça va. Les beaux-parents, futurs beaux-parents. Pas un mot. À table, Michael, ça va? Ça va. J'étais invité au mariage de sa sœur. J'ai pas dit un mot, au point qu'il y a un membre de la famille qui a dit « T'es sûr que tu fais le bon choix? Je pense pas que c'est la bonne personne. » Et effectivement, je n'aurais pas été la bonne personne si je n'avais pas changé. Mais gloire à Dieu, il a mis dans ma vie ma merveilleuse femme qui, au lieu de me laisser, a mis le doigt dessus. Et à un moment donné, elle me disait, elle continuait, malgré ma susceptibilité, elle continuait à me dire des choses quand elle n'était pas d'accord. Et là, oh, une fois, elle m'a appelé au téléphone, et je lui parlais de tout ça. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous vous sentez accepté de cette personne. C'est votre fiancé. Et plus une personne, vous sentez que vous êtes important pour elle, plus ce sera dur d'encaisser les critiques. Parce que les gens, vous ne connaissez pas. Bon, ok. Pour certains, c'est dur, mais pour d'autres. Mais là, et quand elle me disait quelque chose, elle m'a dit une réflexion au téléphone. J'avais la gorge coupée. Oh, c'était plus fort que moi, incapable de parler. J'ai dit « Ok, bon, salut, je dois te quitter. » J'ai raccroché. Et là, quand j'ai pensé au Seigneur, juste après avoir raccroché, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi d'avoir accepté ça. » Et je me suis mis à pleurer, pleurer. Et là, le Seigneur m'a dit « Tu vois, Michael, tu souffres de rejet. Rejette le rejet. » C'est pour ça que j'ai un puissant message sur le rejet. Je devrais le prêcher un jour, mais je ne l'ai pas encore prêché parce qu'il se résume en une phrase. Le remède contre le rejet, c'est de rejeter le rejet. Rejette le rejet. C'est pour ça que j'ai du mal à en faire un message, en fait. Mais... Rejette le rejet. Rejette-le constamment et tu verras, tu ne souffriras plus de rejet. Mais le rejet est du diable. À force de le rejeter... Alléluia. Donc voilà. Et je finis par ce point. Souvenez-vous de... Oui, bah pour finir avec ma femme, bien sûr, après ce moment-là, j'ai vécu une visitation du Seigneur ce soir-là. Et sa parole qu'il m'a adressée a changé ma mentalité. Et j'ai été libéré. Et toutes les fois où on me faisait des reproches, je ne dis pas que ça ne fait plus rien, parce que le vieil homme est toujours quelque part, mais le trait de caractère de Christ prédomine. Et il ne me domine plus, le vieil homme. Alors du coup, je peux réagir. Et au lieu de fuir et de me braquer, je peux rester là où je suis et avancer dans ma destinée. Le problème de beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ils vont nulle part, vous savez pourquoi? Parce que peu importe où vous les plantez, même chez McDonald's ou chez Tim Hortons, ils ne vont jamais aller plus loin chez McDonald's ou Tim Hortons, parce qu'à un moment donné, ils vont se frotter au patron, à un moment donné, ils vont se frotter aux collègues et ils vont dire « je change de boulot ». Et ils vont ailleurs. Et là, ça se reproduit la même chose, parce que jamais ils ne décident de rester et de résister face aux mauvais traits de caractère. Et dans l'Église, c'est pareil. Jamais les chrétiens vont de gloire en gloire dans leur Église, ou rarement. Heureusement qu'il y en a qui y vont. Mais parce que beaucoup, et surtout dans cette région, dès qu'il y a un problème de caractère, dès qu'on n'est pas d'accord, on part. Mais c'est n'importe quoi. C'est stupide. C'est contraire à ce que Christ a dit. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, on refuse de devenir comme Christ. Frères et sœurs, s'il y a des gens dans votre vie que vous avez envie de fuir, ne les fuyez pas. Si vous aviez prévu de déménager aux États-Unis, et s'il y a une personne comme ça dans votre vie, restez là où vous êtes juste pour cette personne et n'allez pas aux États-Unis. Si on vous offre un super emploi dans une super entreprise à Montréal, et que s'il n'y a pas cette personne, ok, peut-être vous pouvez y aller. Mais s'il y a une personne comme ça, aussi rare dans votre vie, restez s'il vous plaît, parce qu'elle va tellement investir plus dans votre vie et dans votre caractère que ce qu'une entreprise pourrait vous apporter. Je dis des choses en rigolant, en exagérant, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est précieux, le fait de se frotter aux autres. Je finis par cet exemple, celui de Joseph. Regardez Joseph. Ah, il y a un passage avant qui dit, Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Il y a aussi dans l'idée de fréquenter les hommes, ceux que vous allez fréquenter, ces personnes que vous allez fréquenter, vous allez devenir comme elles. Parce que quand vous vous frottez à quelqu'un et qu'une personne a un caractère supérieur à votre caractère en termes de puissance et que vous restez au contact de cette personne, votre caractère va devenir comme celui de cette personne. J'entends par caractère supérieur au vôtre ou au mauvais caractère, j'entends par caractère supérieur le bon caractère. Et le bon caractère, c'est le caractère de Christ. Mettez quelqu'un qui est peureux au contact de quelqu'un qui a la foi, vous verrez, c'est celui qui est peureux qui va devenir quelqu'un de foi. Mettez quelqu'un qui est peureux au contact de plusieurs personnes qui ont la foi, vous allez voir, si cette personne reste en contact avec eux, elle va devenir une personne de foi. Mettez en contact une personne qui manque d'amour avec des personnes qui sont vraiment généreuses. Elle donne tout. Elle donne tout, 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 tout. Elle donne des voitures. Elle donne des téléphones. Elle donne de l'argent. Elle fait des grosses offrandes. Elle aide les pauvres. Bah, vous allez voir, à un moment donné, si vous restez au contact avec ces gens, vous allez devenir comme eux. Parce que le fer aiguise le fer. Celui qui fréquente des sages devient sage. Enfin, pour terminer, donc, Joseph, c'est un exemple. Regardez la vie de cet homme. Joseph était un jeune adolescent qui semblait prétentieux et manquait de sagesse. Vraiment, laisse transparaître un mauvais trait de caractère. Pourquoi ? Parce que Dieu lui montre dans un rêve que il est le soleil et que toutes les étoiles autour vont se prosterner devant lui. Et Dieu lui montre qu'il est un gerbe de blé et que les gerbes de blé qui représentent les autres gerbes qui représentent sa famille vont se prosterner devant lui. Et il a bien compris le rêve, au point que même son père a compris, et ses frères ont compris, et ils lui en ont voulu, parce qu'il est allé dire, écoutez, voilà le rêve que j'ai vu. C'est comme si je fais un rêve, et je vois Pasteur Joël, il est un gerbe de blé, et moi je suis un gerbe de blé. Et tout d'un coup, son gerbe de blé et celui de Pasteur Mathilde se prosternent devant moi, Pasteur Jérémy aussi, ils se prosternent tous devant moi. Et là, le dimanche matin, j'arrive à l'église et je vous dis, j'ai fait un rêve, et j'ai vu... 4 gerbes de blé. En fait, il y en avait 6. 2 autres qui étaient un peu plus cachés derrière. Et les 6 se prosternaient devant mon gerbe de blé. Les 2 autres au fond, c'était Pasteur Wallace et Fernande. Le tout proche de moi, c'était Pasteur Joël et Mathilde. Et entre les 2, c'était Pasteur Jérémy et Annabelle. Et vous voyez, vous allez tout de suite voir, il y a un problème de caractère, n'est-ce pas ? Parce que quand Dieu vous montre quelque chose comme ça et que vous avez un caractère humble et sage, un bon trait de caractère, vous vous la fermez et vous dites rien. Et vous priez. Et peut-être même que vous allez prier que Dieu élève. Et peut-être même que vous allez prier, Seigneur, ce rêve ne vient pas de toi, c'est de Satan, je le chasse. Mais en tout cas, vous allez prier. Vous allez garder votre bouche. Mais Joseph, lui, il n'avait pas ce type de caractère. Il était prétentieux. Et en plus, il était fainéant, visiblement. Et ses frères, vous savez, l'ont livré. Joseph a été trahi 3 fois. Trahi par ses frères, jeté dans une citerne, ensuite trahi par l'homme qu'il a servi pendant de longues années, je crois près de 10 ans. Potiphar, il l'a trahi, Joseph, en croyant le mensonge de sa femme et en mettant Joseph, qui lui était fidèle, dans une prison. Et puis, dans la prison, il a eu des paroles. Il a servi deux hommes, les chansons et le panetier. Il a sauvé les chansons de la mort. Et il a dit « Souviens-toi de moi ». Et cette chanson a trahi Joseph en l'oubliant pendant un temps. Sauf quand il avait besoin de faire sa propre promotion auprès de Pharaon. Mais vous voyez, ici, on voit un homme trahi, un homme rejeté, un homme qui aurait pu se morfondre toute sa vie et pleurer et nourrir des mauvaises choses. Mais cet homme avait compris que là où il était, Dieu était avec lui et que ce n'était pas la fin et qu'il pouvait changer, devenir meilleur et que Dieu avait une destinée pour sa vie et qu'il a conservé sa relation avec Dieu et il a travaillé son caractère. Et Dieu a utilisé toutes ces épreuves par lesquelles Joseph est passé pour façonner le caractère de Joseph. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ces épreuves? Est-ce que c'est Dieu qui a fait que ces hommes ont trahi trois fois Joseph? Bien sûr que non. Non, ce n'est pas Dieu. Mais la Bible dit dans Genèse 50, verset 10, Joseph parle à ses frères, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et c'est cela que ce que Dieu ferait, frères et sœurs. Quand la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive vient de Dieu, mais ça veut dire que tout ce qui peut s'abattre contre nous, même les mauvaises choses, même les adversités, même les difficultés, même les situations mauvaises, il y a deux manières d'appréhender les choses. Soit on les appréhende avec « Dieu est avec moi » et il transforme le mal en bien, et tout ce mal, même s'il est là, même si Satan se déchaîne, a pour objectif de me tailler, de me façonner, de faire du diamant que je suis un diamant pur, de faire du vase vil que je suis un vase noble entre ses mains. À ce moment-là, Dieu se sert du mal pour le transformer en bien. Vous voyez? Et peut-être que dans votre vie, Satan a fait des choses difficiles. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des situations très dures aujourd'hui. Votre passé vous rattrape. Ou des choses qui sont là autour de vous. Des gens disent faussement du mal de vous. Et peut-être qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre passé. Mais c'est ce qui serait une erreur, c'est de se lamenter, de se baisser, de se dire « c'est fini ». Joseph aurait pu dire « c'est fini dans ce trou, frères et sœurs ». Joseph aurait pu dire « ma destinée, c'est de mourir dans cette prison ». Ma destinée, c'est de mourir esclave. Ma destinée, c'est de mourir dans cette citerne. Mais à chaque fois, Joseph a rebondi avec Dieu. Et Dieu a transformé le mal en bien. Dieu a transformé le mal en bien. Frères et sœurs, ces situations mauvaises dans votre vie aujourd'hui, il faut que vous soyez clairs devant Dieu. Et si vous êtes clairs devant Dieu, vous avez de l'assurance et vous pouvez compter sur Dieu pour vous faire sortir de ce bourbier. J'ai été dans des dettes et je sais ce que c'est. J'ai été accusé, je sais ce que c'est. Mais chaque fois, Dieu s'est servi du mal pour le transformer en bien. Restez là où vous êtes, appuyez-vous sur la parole de Dieu, fermez, enracinez et comptez sur lui. Et il va vous transformer et vous rendre meilleur, comme au travers du feu, vous allez être purifié. Dieu veut nous rendre meilleurs, frères et sœurs, par le contact de l'eau, par le contact du vent, par le contact de l'homme, par le contact de sa parole, par le contact de sa présence et par le contact de votre prochain.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.